Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour, nous revenons sur le sommet des deux rives qui s'est tenu à Marseille le 24 juin. Relancé à l'initiative de la France, il regroupe généralement les représentants des gouvernements de 5 pays du Nord et de 5 pays du Sud dans la partie occidentale de la Méditerranée. La nouveauté cette fois-ci, c'est la place prépondérante donnée aux sociétés civiles des différents États. Cette émission donne la parole aux chefs de file des délégations de 5 d'entre eux, Maroc, France, Italie, Mauritanie et Portugal. Des personnalités qualifiées très déterminées à faire aboutir les projets transnationaux qu'elles ont sélectionnés. Vous pourrez réécouter cette émission sur notre site www.rfi.fr ou la podcaster sur notre appli Pure Radio. Assia Ben Salah Alaoui est ambassadrice itinérante du roi du Maroc Mohamed VI. À la tête de la délégation marocaine de la société civile, celle qui a été professeure de droit international et qui siège au conseil de l'ONG Leader pour la paix, n'a pas mâché ses mots devant le président français Emmanuel Macron en plaidant pour un renouveau de la coopération régionale en Méditerranée occidentale.
Si vous pensez avec Paul Valéry que la fonction essentielle de l'homme est d'inventer de l'avenir, je vous remercie pour cette initiative qui offre aux sociétés civiles et à la jeunesse en particulier d'être des acteurs de leur propre avenir. Je ne vous cacherai pas, Monsieur le Président, que tout au long du processus, nous avons eu un petit peu de mal parce qu'il faut triompher de toutes les réticences. Et il y en avait. Mais par contre, je peux vous assurer que le premier motif de satisfaction a été déjà la découverte de ces immenses talents qui nous racontent à leur manière une autre narrative de la Méditerranée, positive celle-là, et qui vient démentir toutes les visions si négatives et si pessimistes pour notre région. Alors je ne reviendrai pas trop sur les projets, hélas vous n'étiez pas là Monsieur le Président, donc je me limiterai simplement à en rappeler les critères que nous avons mis à la tête des 6 critères, c'est-à-dire l'innovation, la durabilité, bien entendu au-delà du maillage, de la faisabilité, car on ne voulait pas qu'on nous prenne pour des hurluberlus, c'est des choses faisables que nous vous proposons. Par conséquent, ceci a traversé absolument toutes les thématiques, bien entendu l'énergie qui est au cœur de la durabilité pour faire face au changement climatique, mais aussi en tant que composante essentielle du nexus eau, alimentation, énergie, sur lequel personnellement je travaille aussi. La jeunesse, bien sûr, qui a comme horizon l'avenir, et donc il nous faut beaucoup d'investissements dans les outils innovants, qu'ils soient matériels ou immatériels, pour éduquer l'ensemble, mais éduquer, mieux éduquer, je dirais, surtout les éducateurs et les formateurs, et bien entendu offrir une deuxième chance aux décrocheurs qui, hélas, sont une grande majorité. Mais il faut faire face aux immenses disparités qui sont une plaie chez nous et qui viennent creuser le prosperity gap et faire de l'Europe un véritable aimant, malheureusement, au détriment de nos pays, puisque nous perdons nos meilleurs et parfois on garde les bras cassés. Donc ça, il faut trouver bon ordre à tout cela à travers une mobilité maîtrisée, certes, mais une mobilité certaine pour la jeunesse qui a évidemment comme horizon l'avenir. Pour cela, il y a évidemment le plus dur qui reste à faire, c'est la culture partagée. Et c'est ça qui me tient à cœur. Mais ce que je voudrais dire, c'est que à travers ces multiples rencontres, à travers tous ces forats, à travers, je dirais, ce faire ensemble, c'est déjà un dialogue entre les différences qui est en marche, comme modus operandi d'un meilleur vivre ensemble et surtout porteur d'une meilleure compréhension entre nos différents pays. Reste évidemment la mise en œuvre. J'espère que nos amis des institutions financières ont bien compris, pour la survie de cet exercice et pour leur propre regain de légitimité qui est malmené par toutes les sociétés civiles, à vraiment financer et nous donner des projets concrets pour garder la visibilité de cette Méditerranée talentueuse, pour pouvoir l'accompagner, mieux la structurer, la rendre bancable pour le grand bien de nous tous.
Pour sa part, la chef de la délégation française de la société civile, Patricia Ricard, a centré son propos sur l'avenir environnemental de la mer Méditerranée. Pour celle qui dirige l'Institut océanographique Paul Ricard, la question de la pollution de la mer est essentielle et multinationale.
La communauté scientifique compare toujours la Méditerranée à un océan modèle, puisqu'en fait, notre avenir se joue entre trois équilibres fragiles, le climat, l'océan, la biodiversité. Je vois le monde aujourd'hui aller vers l'adaptation au changement climatique, mais je le vois beaucoup moins aller vers ce qu'on appelle l'atténuation. L'atténuation, ça c'est le boulot du vivant, de la biodiversité. Je crois que nous avons une chance inouïe dans ce 5+5, avec cette belle Méditerranée entre nos deux rives, c'est de devenir un laboratoire de solutions, de devenir un laboratoire de mutualisation de nos bonnes pratiques. Il y a 35 ans, nous n'avions pas de station d'épuration. Nous avons deux parcs nationaux, nous avons des scientifiques, nous avons des entreprises privées qui financent des chercheurs. Les solutions, nous les avons. Partageons-les, arrêtons de parler des problèmes, commençons à parler des solutions. Les solutions existent. Maintenant, je voudrais vraiment que vous ayez conscience à quel point le vivant est important. Pas uniquement pour avoir la beauté de garder des dauphins et des papillons, mais pour notre survie. Toute la partie stockage carbone, c'est le vivant, océan compris, plancton. Une respiration sur deux, c'est l'océan. Les solutions de demain, elles, ce sont les solutions fondées sur la nature. Il n'y a pas que du plastique dans l'océan. Il y a des espèces remarquablement compétentes. Aujourd'hui, avec le biomimétisme, on peut aller chercher de la connaissance dans la nature. Et nous, nous sommes responsables des tourterelles qui passent d'une rive à l'autre, des baleines qui passent d'une rive à l'autre. Nous avons la capacité aujourd'hui de regarder cette Méditerranée non plus comme un énorme bassin de pêche, mais plutôt comme une source d'inspiration. Et je nous souhaite à tous une Méditerranée bien vivante.
Giulia Macce menait la délégation italienne de la société civile. Elle a insisté sur le projet porté par son équipe, la réhabilitation urbaine des villes côtières, une initiative qui intéresse toutes les cités du pourtour méditerranéen.
Il faut, je pense, reconnaître cette énergie, l'énergie de la société civile, des communautés locales et des villes. On vit dans un Méditerranée qui est un Méditerranée urbain, et territorialiser les politiques et décentraliser aussi la coopération de la Méditerranée. Et dans cette perspective que l'équipe italienne avec l'équipe française, algérienne, tunisienne et maltaise, ils ont proposé un projet partagé de réhabilitation urbaine des villes côtières à partir de la création des systèmes alimentaires locaux et durables. Nous avons choisi une approche circulaire intervenant dans la phase de production, pêche et agriculture périurbaine, distribution, consommation et recyclage. Le projet s'appelle l'économie circulaire de l'alimentation, partnership pour des villes côtières durables. Et on a choisi une approche stratégique à l'échelle de la ville, mais aussi on a identifié des projets pilotes très concrets. Et parmi les interventions proposées, on a proposé la création d'un community lab, d'un laboratoire communautaire dans des bâtiments pas utilisés pour soutenir et former les petits producteurs locaux et particulièrement les femmes et développer de manière participative des projets de valorisation et production locale. Quand on parle de territoire, il faut parler d'approche participative. Deuxième, la valorisation des marchés locaux, des poissons, au marché alimentaire, dans une perspective touristique durable et gastronomique. On a beaucoup d'exemples en Italie et en France aussi, mais il faut partager cette expérience. Troisième, la valorisation des produits accessoires de la pêche, en créant un label 100% local et favorisant les contacts entre les producteurs et les restaurants. Quatrième action, c'est l'aquaculture, aquaculture multitrophique intégrée avec la permaculture. La proposition qu'on est en train de former implique 5 villes côtières pour partir, mais avec l'idée de créer vraiment un réseau des villes durables dans la Méditerranée. Et nous faisons confiance au soutien de la politique, de vous, mais de tout, de mon pays, de l'Italie, de tous les pays, pour réaliser ces projets et pour poursuivre aussi un dialogue actif sur ces questions prioritaires. Pour conclure, je veux dire deux mots sur l'essence pour moi, qui a eu pour moi cette expérience de sommet de deux rives. J'ai récemment revu les films Casablanca avec Ingrid Bergman et Bogart. Et peut-être vous souviendrez la scène dans les cafés, Rijkscafé, lorsqu'un groupe de soldats allemands commence à chanter l'hymne nazi. Et alors, en réponse, la petite orchestre du café commence à jouer la Marseillaise. Et tous les clients du bar, les vieux, les femmes, commencent à chanter aussi très fort. Et la Marseillaise, dans ce cas-là, n'est pas l'hymne français, mais c'est un chant de liberté. Et Casablanca, ce n'est pas une ville marocaine, mais c'est une ville cosmopolite, européenne et méditerranée. Et maintenant, dans une période, je pense, compliquée pour l'Europe, je pense que cette scène représente bien les projets européens et l'esprit aussi de cette initiative méditerranée qu'on vient de commencer. Et c'est avec cet esprit d'enthousiasme partagé, de mémoire, que je voudrais que le travail de ces mois derniers permette vraiment de créer des dialogues réels entre la société civile, entre les projets concrets et la politique.
Orion Hebdo sur RFI.
De son côté, José López a dressé le constat que la société civile pouvait être un réel moteur du changement. Une bonne surprise pour le leader de la délégation portugaise.
Je crois qu'il faut fêter la liberté que représente la possibilité de rassembler tant de gens, de construire aussi un concept de société civile, parce que je vous avoue que quand j'ai commencé ce projet avec tous mes collègues, j'avais des doutes sur ce que représentait réellement la société civile pour chacun d'entre nous. Mais après des milliers de messages de WhatsApp, après pas mal de discussions, après même des conference calls très animés, après des réunions, après des discussions, je crois que nous sommes tous d'accord. Nos sociétés civiles, déjà, cette approche n'est plus nationale. C'est une approche au moins plurinationale, plurielle et de liberté. Et je crois beaucoup à cette idée. Ce que nous avons ici, ce qu'a été ici notre travail, de parler de jeunesse et de mobilité, de parler d'économie et de compétitivité, de parler d'énergie dans toutes ses variantes, de parler de science beaucoup, de parler de mer, de parler d'économie bleue, ça représente un peu de l'idée de reprendre ce que nous a rassemblé à nous les Européens il y a quelques décennies. La liberté de circulation, des idées, des personnes, des services et des capitaux. Ça peut paraître très technique, mais c'est au fond ce que nous avons essayé de faire ici, de renforcer la liberté, et la liberté ne peut exister qu'avec cette possibilité de faire circuler les idées, les projets, de les rassembler, de les accoupler, de les discuter, de les débattre. Et donc quand on parle de l'huile d'olive et de ce qu'on peut faire avec ces déchets, nous parlons aussi de quelque chose que nous reconnaissons immédiatement. Quand nous parlons de la liberté de circulation des jeunes, nous parlons aussi des contributions qu'ils peuvent donner aux villes, à cette idée d'économie circulaire. Quand nous parlons des jeunes, nous parlons nécessairement de science, parce que s'ils représentent évidemment notre espoir et notre futur, il représente aussi ce que nous espérons sera beaucoup plus encore que ce que nous avons réalisé. Mais quand je parle de jeunesse, quand je parle Méditerranée, je pense aussi à ce qui n'est pas nécessairement innovant, à ce qui n'est pas nécessairement révolutionnaire. Je pense à tous ceux qui n'ont pas de qualification, qui ont décidé de travailler différemment. Je crois que pour eux, il est nécessaire aussi de proposer quelque chose, non pas seulement à ce qui est brillant, à ce qui est jeune, mais proposer aux PME qu'elles puissent travailler ensemble, qu'elles puissent passer du nord au sud et du sud au nord, parce que le monde n'est pas toujours fait de fêtes, n'est pas toujours fait de hors normes, il est fait de gens normaux comme nous, il est fait aussi des espoirs des familles qui ont fait des choix différents des deux côtés de la Méditerranée. Et je vais terminer avec une phrase que j'aime beaucoup. Et c'est quelqu'un qui écrivait une lettre à son frère et qui décrivait les mouvances, les couleurs de la Méditerranée. La Méditerranée a une couleur comme celle des maquereaux, c'est-à-dire changeante. On ne sait pas toujours si c'est vert ou si c'est violet. On ne sait pas si c'est bleu, car la seconde après, le reflet changeant a pris une teinte de rose ou grise. Ce n'était pas quelqu'un qui soit né dans un pays de la Méditerranée, mais qui est mort en Méditerranée. C'était Van Gogh. Je crois que sûrement, par le cœur, ça a été un des plus grands méditerranéens.
Aïssa Talem était la chef de file de la délégation venue de Mauritanie. Une délégation dont les membres étaient majoritairement des femmes de moins de 30 ans. Son espoir est de voir émerger une génération méditerranéenne par-delà les frontières.
Le père fondateur de la Mauritanie disait que la Mauritanie de demain serait ce qu'en ferait la jeunesse d'aujourd'hui. Donc je me permets de le paraphraser et de dire que la Méditerranée de demain est ce qu'en fera sa jeunesse d'aujourd'hui. une génération à l'avenir brillant, mais à la lumière souvent prématurément éteinte et qu'on doit lui rendre. Ce sommet des deux rives, s'il y a une phrase qui me vient à l'esprit, qui résume cette odyssée, si je peux l'appeler ainsi, ce récit de voyage aux aventures singulières qui a inspiré une volonté réelle de nous rapprocher, donc de créer des ponts pour qu'ils se traduisent en l'essor d'une grande nation de la Méditerranée. C'est cette phrase de Jacques Brel que j'aime beaucoup et que vous connaissez sans doute. « À la minceur des épluchures, on voit la grandeur des nations. » Ma vision de la Méditerranée, c'est cette grande nation aux minces épluchures. Avec une ambition commune qui est de voir naître une génération méditerranéenne qui définit un paradigme nouveau, un narratif à son image. D'ici 2050, les populations des pays de la rive sud auront doublé, avec les moins de 25 ans qui représenteront plus de 60% de la population. Donc c'est l'essor de jeunes femmes et de jeunes hommes qui vont constituer le cœur des perspectives économiques de nos pays respectifs. Sans renforcement de ce capital humain, sans investissement dans l'éducation de base, sans réduction des freins à l'essor économique des femmes, ces perspectives économiques vont rester juste des variables et des spéculations. Et le potentiel justement de ce dividende démographique sera très très difficilement matérialisable. L'ambition commune de cette nouvelle génération méditerranéenne, c'est qui est force de proposition, est de pouvoir donner les mêmes chances aux deux rives, les mêmes opportunités aux Libyens, aux Mauritaniens, aux Français, aux Espagnols, pour faire valoir leur plein potentiel. Promouvoir les partenariats pour garantir un partage de connaissances et une mobilité des talents, à l'image de nos 8 jeunes Mauritaniens qui sont admis cette année à l'École Polytechnique de Paris. Ce sont ces futurs ingénieurs, qui vont permettre de transformer nos chaînes de valeur, créer de la richesse dans le secteur minier et gazier, de réinvestir dans nos communautés tout en protégeant l'environnement, mais aussi une ambition d'élever une nouvelle génération qui crée des ponts en rapprochant les entrepreneurs, de promouvoir l'agriculture et la consommation locale, des ponts qui facilitent l'accès du capital français à nos start-up, qui permettent à la poutargue produite par les femmes mauritaniennes au banc d'Arga d'être consommée par nos amis portugais. Je sais que José est très friand de notre poutargue. Ambition verte, inévitablement, mais avenir féminin, naturellement. L'insertion économique des femmes est un pilier majeur pour parvenir à cette ambition commune. Nous parlons d'une région où la majorité de la population est jeune et femme. Donc mettre au cœur cet agenda des projets et des politiques est primordial. C'est ce que nous avons fait en Mauritanie avec un projet par exemple tel que Jeune fille, grande ambition, afin de donner des outils nécessaires à ces filles, à ces femmes, actrices réelles de création de richesses. Comme mes collègues l'ont dit, on pourrait vraiment s'attarder sur les éléments qui nous divisent aujourd'hui. Mais au-delà des frontières terrestres, des côtes maritimes, des rives nord et des argumentations pour définir quel pays appartient réellement à la Méditerranée, si la Mauritanie est réellement méditerranéenne, ce qu'il faut retenir, c'est cette jeunesse consciente, en quête d'avenir meilleur, qui a soif d'une région redéfinie par les opportunités qui s'offrent à elle, de mobilité sans mettre en péril sa vie, et de compromettre sa dignité, soif d'intégration au sens humain du terme. Et c'est cet esprit qui nous a animés, et mes collègues l'ont rappelé, durant tous ces mois de travail, pour mettre en œuvre ces beaux projets qui sont issus de cette aventure. Et c'est un élément très très important pour moi, et soyez rassurés, que nous nous engageons au-delà des déclarations de vraiment porter ces projets sur le terrain, parce que c'est ce que nous faisons au quotidien.
Le prochain sommet se tiendra dans 6 mois, a proposé Emmanuel Macron à l'issue de Marseille. La Mauritanie a déjà proposé de l'accueillir. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Bouchani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Passez une bonne semaine, fidèle à la Radio Mondiale. Dans quelques instants, le journal.
Pour nous écrire, orient.hebdo@rfi.fr.